SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce jeudi 3 octobre 2024. Israël continue de bombarder le Liban alors que l'État hébreu a lui-même été ciblé hier par des missiles iraniens. La communauté internationale observe de très près la situation au Proche-Orient où les tensions ont rarement été aussi vives que ces derniers jours. Des tensions palpables jusqu'en Australie où la police de Nouvelle-Galles du Sud veut faire interdire des rassemblements pro-palestinien prévu ce dimanche ainsi que à la date anniversaire du 7 octobre. Et puis Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, le plus connu des militants anti-chasse à la baleine, va rester en prison. Et je vous le disais dans les titres, le Liban a de nouveau passé la nuit sous les bombes. L'armée israélienne a mené hier une offensive qui a frappé la banlieue, mais également le cœur de la capitale Beyrouth. Ces assauts, durant la journée de mercredi, auraient ainsi fait 46 morts. En parallèle, la communauté internationale observe également de très près la réaction israélienne aux attaques de Téhéran, qui a envoyé hier plus de 200 missiles sur l'État hébreu. La perspective d'un conflit direct entre ces deux pays inquiète en Iran, où Siavosh Ghazi, le correspondant de RFI sur place, a interrogé la population.
Dans une nouvelle mise en garde contre Israël, le président iranien a déclaré que Téhéran attaquerait encore plus fort Israël en cas de riposte de l'État hébreu. Il a qualifié de succès l'attaque par 200 missiles contre Israël en réponse à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, tué lors d'une frappe ciblée à Téhéran, et de Hassan Nasrallah à Beyrouth, en ajoutant que l'attaque avait montré que le dôme de fer était plus fragile qu'un dôme de verre. Malgré ces menaces, la population craint une riposte israélienne qui pourrait entraîner le pays dans une guerre ouverte avec l'État hébreu et même les États-Unis. Signe des inquiétudes, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'à jeudi matin à 5h l'interdiction de tous les vols intérieurs et internationaux. Ce qui montre que le pouvoir envisage même une riposte israélienne dès cette nuit, mais il veut mobiliser ses partisans. D'ailleurs, le guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a annoncé qu'il dirigera personnellement la prière collective ce vendredi à Téhéran, signe qu'il ne craint pas une attaque israélienne. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Pas de crainte d'une attaque israélienne du côté du pouvoir iranien. Toujours est-il que cet envoi de missiles sur l'État hébreu a été très sèchement critiqué par le président américain Joe Biden. Il a au passage réaffirmé sa solidarité avec Israël, sans toutefois aller jusqu'à soutenir l'État hébreu dans le cas d'une frappe sur les installations nucléaires de l'Iran. On écoute le président des États-Unis.
We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but they have, all seven of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion.
Le ton à l'égard d'Israël n'est pas toujours aussi conciliant qu'à Washington depuis les Nations Unies. Ainsi, Antonio Guterres, en ne dénonçant pas explicitement l'attaque iranienne sur Israël, s'est attiré, lui, les foudres du gouvernement hébreu, qui a même déclaré que le secrétaire général de l'ONU était persona non grata. Pour le chercheur à l'IRIS, Romuald Sciorra, c'est surtout parce que l'ONU apparaît aux yeux du gouvernement israélien comme le bouc émissaire idéal.
Israël aujourd'hui tape sur l'ONU parce que l'ONU est une cible facile. Il est beaucoup plus facile de démolir les Nations Unies et de faire de son secrétaire général une personne non grata sur le sol israélien que de critiquer ouvertement le président des États-Unis, par exemple. Donc, en attaquant Guterres, Netanyahou s'en prend à la communauté internationale dans son ensemble et surtout justifie sa position et sa politique guerrière vis-à-vis de son opinion en se positionnant comme une victime, en positionnant Israël comme une victime de la communauté internationale et en positionnant Israël comme une victime de l'antisémitisme généralisé qui, selon lui, aujourd'hui domine l'ensemble de la communauté dite internationale.
Et c'est en ce moment même à Sydney que la police de Nouvelle-Galles du Sud est en train de demander à la Cour suprême d'interdire une manifestation pro-palestinienne prévue le 7 octobre. Il y en a également une d'ailleurs de prévue le dimanche 6. Le 7 octobre, c'est bien sûr la date anniversaire du massacre perpétré en Israël par le Hamas. Et c'est justement ce qui justifie cette demande d'interdiction de la part de la police qui craint que ce rassemblement soit l'occasion de dérapage et même de possibles explosions de violence. Les organisateurs de ce rassemblement dénoncent pour leur part une entorse grave à la liberté d'expression. Mais il faut dire que depuis le début de cette polémique, ils n'ont pas réussi à trouver de soutien parmi les autres élus du Parlement. Ainsi, le député d'opposition Barnaby Joyce partage entièrement l'avis du Premier ministre Anthony Albanese. Il estime que l'organisation de ces événements serait, selon lui, de mauvais goût et contre-productif. On écoute Barnaby Joyce.
You can't have a protest on the 7th of October. What on earth? What on earth are you going to? Why would you go out into the streets on that day? It's outrageous. You're not going to assist anything.
Et parmi les autres effets de ce conflit au Proche-Orient sur la scène politique australienne, on apprend que l'ancienne sénatrice travailliste Fatima Payman, ancienne membre du Parti travailliste, va lancer d'ici quelques semaines son propre parti. Selon The Australian, qui a révélé l'information aujourd'hui, elle envisage, la sénatrice, de présenter sous cette nouvelle étiquette des candidats aux prochaines élections sénatoriales dans tous les États du pays et notamment dans des circonscriptions susceptibles de basculer. Fatima Payman, je le rappelle, est âgée de 29 ans. Elle a été élue pour la première fois il y a 2 ans et elle a quitté donc il y a quelques mois le Parti travailliste sur fond de désaccord quant à la politique du gouvernement sur le Moyen-Orient. Et une bonne nouvelle pour les entrepreneurs aborigènes puisque les contrats liant ces entreprises gérées par des peuples des Premières Nations et le gouvernement fédéral viennent de passer la barre symbolique des 10 milliards de dollars. Parmi celles-ci, une société d'aérospatiale, Goonganji, établie sur la Sunshine Coast dans le Queensland et qui travaille notamment avec Boeing et le secteur de la défense. Pour son fondateur, Daniel Joinby, c'est un secteur d'avenir ouvert aux jeunes talents aborigènes.
What we really focus on is young adults who may have fallen through the system, and we look to create pathways in adjacent sort of professional services. So it might be things like security or operations, where we're looking for low barriers for entry, repeatable tasks, where we can give these young adults an opportunity and a chance to participate in what can be a technical environment, but it isn't always a technical environment.
Et encore un mot sur le gouvernement australien qui s'est engagé à lutter contre un phénomène connu sous le nom de shrinkflation. La shrinkflation, ça consiste pour certains fabricants à maintenir le prix de vente de leurs produits en magasin, mais en réduisant la taille ou la quantité de ces dits produits. Pour endiguer ce phénomène, le gouvernement compte notamment améliorer la lisibilité et la visibilité des prix à l'unité. Il veut également harmoniser les unités de mesure employées par les différents acteurs de la grande distribution, qui enfin pourraient se voir infliger de lourdes amendes en cas d'infraction. À Taïwan, la population se prépare à l'arrivée du typhon Krator qui va traverser l'île du sud au nord. Les autorités s'attendent à d'importants dégâts. Les précisions du correspondant de RFI à Taïwan, Julien Bois.
Depuis mercredi matin, tout le pays est à l'arrêt. Écoles et entreprises sont fermées pour la journée et les autorités incitent la population à rester chez soi. Dans les aéroports, tous les avions sont cloués au sol et une centaine de vols internationaux ont été interrompus. À l'approche de l'île, le typhon s'est heureusement affaibli dans la journée, mais les rafales de vent à plus de 200 km/h et les pluies torrentielles au sud du pays font craindre des glissements de terrain et des inondations. Plus de 9000 personnes ont déjà été évacuées des zones les plus à risque et des inondations sur la côte ouest ont déjà été signalées. De son côté, le ministère de la Défense a mobilisé près de 38 000 soldats prêts à secourir la population en cas de désastre. Selon le dernier bilan des autorités, le typhon aurait causé la mort de 2 personnes et fait 102 blessés. 2 personnes sont portées disparues. La décision a été prise de prolonger le temps de congé jusque jeudi dans tout le pays pour protéger la population. Jules Bois, Taipei, RFI.
Paul Watson va donc rester en prison. Le célèbre défenseur des animaux marins s'est vu prononcer son maintien en détention par la justice du Groenland. Le militant écologiste est accusé par le Japon d'avoir porté des blessures et causé des dommages sur un navire chasseur de baleines en 2010. Et c'est avec ce jugement la 3e fois que le fondateur de Sea Shepherd se voit refuser sa remise en liberté. On écoute la réaction de la représentante française de Sea Shepherd, Lamia Essemlali, une réaction recueillie par Igor Strauss pour RFI.
La décision du juge n'est pas une surprise, puisqu'on s'attendait à un bis repetita des audiences précédentes. C'est-à-dire qu'il refuse toujours d'analyser les éléments de preuve de nos avocats qui pourraient innocenter Paul Watson. On a vraiment le sentiment qu'en fait la décision elle est prise avant même l'audience. Donc on est vraiment là dans une parodie de justice. On voit bien que la volonté en fait est de le maintenir en détention. La justice n'est pas rendue, les droits de la défense ne sont pas respectés. Et ça ne fait que conforter le fait qu'on est vraiment dans un dossier politique. Avec un Japon qui veut absolument obtenir sa vengeance et le Danemark qui tente de la lui obtenir. En tout cas, le Danemark se comporte vraiment comme un pays indigne de l'Union européenne et on sait que le Danemark n'est en plus pas un pays neutre puisque Paul Watson et Sea Shepherd se mobilisent contre la chasse des dauphins qui est défendue par le Danemark, qui mobilise des frégates militaires pour nous empêcher de sauver les dauphins aux îles Féroé. Et là, on a vraiment le sentiment que finalement, on a des chasseurs de baleines japonais et des chasseurs de dauphins danois qui se sont alliés pour faire tomber leur ennemi commun.
Et on va maintenant en France où le Premier ministre Michel Barnier, après avoir prononcé son discours de politique générale mardi devant l'Assemblée nationale, a fait face hier à sa première séance de questions au gouvernement, des questions qui se sont essentiellement focalisées sur les tensions dans les Outre-mer. Compte rendu Victorien Villaume pour RFI.
5 questions sur 10 au sujet des Outre-mer, la situation migratoire à Mayotte avec la députée RN Anchia Bamana, le coût de la vie en Martinique avec le député socialiste Giovanni William.
Nous vous demandons en urgence un calendrier législatif en vue de l'adoption en 2025 de mesures concrètes contre la vie chère.
Et puis 3 questions posées sur la crise en Nouvelle-Calédonie, notamment par le député gauche-démocrate Emmanuel Djibaou.
Comment la France s'inscrit dans la poursuite du processus de décolonisation afin d'accompagner la Nouvelle-Calédonie vers sa pleine émancipation comme stipulé dans l'accord de Nouméa et sous quel calendrier ?
Michel Barnier ne répond lui-même qu'à 2 questions, l'une sur l'un de ses chantiers prioritaires, la santé mentale, l'autre sur la Nouvelle-Calédonie.
Nous avons pris le temps pour écouter et vous poser la question du report des élections. Nous prendrons aussi le temps de retravailler la question du corps électoral pour retrouver le chemin de l'apaisement et d'une solution institutionnelle.
Après avoir annoncé la veille l'abandon de la réforme électorale, le Premier ministre affirme vouloir faire les choses dans le respect de toutes les forces politiques.
Et pour terminer ce bulletin, un mot de la météo en Australie pour ce jeudi 3 octobre 2024. 18 degrés et quelques averses à Perth, 28 degrés à Adélaïde où la pluie pourrait également faire son apparition en fin de journée. Du soleil en revanche et 25 degrés affichés à Melbourne, 21 degrés à Sydney et un ciel nuageux. Le temps est également à la grisaille aujourd'hui à Brisbane où il fait 23 degrés. Et enfin grand soleil à Darwin ce jeudi où le thermomètre va monter jusqu'à 35 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.